Commentaire sur l'Évangile selon Marc, chapitre 1er. L'auteur de cet évangile est ce Jean, appelé Marc, dont nous parle Acte 15, verset 37, qui avait manqué dans son service quand il avait accompagné Paul et Barnabas dans leur premier voyage missionnaire et qui par la suite était devenu entre eux un sujet de discorde. Il avait d'abord manqué lui-même et puis était devenu aussi une occasion de défaillance pour d'autres plus grands que lui. Triste début, dans une carrière où il est plus tard si pleinement restauré qu'il devient un instrument utile au Seigneur dans ce travail éminent qu'est la rédaction de l'Évangile qui présente le Seigneur Jésus comme le parfait serviteur de l'Éternel, le vrai prophète du Seigneur. Il intitule son livre « Évangile » ou « Bonne nouvelle » de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ainsi, dès le début, il ne nous est pas permis d'oublier qui est ce parfait serviteur. Il est le Fils de Dieu. Et ce fait est encore souligné par les citations tirées de Malachie et d'Ésaïe, au verset 2 et 3, où celui dont le précurseur devait préparer le chemin est présenté comme étant d'origine divine, l'Éternel lui-même. La mission du messager, de celui qui crie dans le désert, marque le commencement même de l'annonce de la bonne nouvelle qu'apporte le Seigneur. Ce messager, c'est Jean le baptiseur, et dans les versets 4 à 8, nous avons un bref résumé de sa mission et de son témoignage. Le baptême qu'il prêche est le baptême de repentance, en rémission de péché, et ceux qui s'y soumettent viennent, confessant leurs péchés. Il leur faut reconnaître qu'en eux il n'y a rien de bon. Et donc, comme cela convient tout à fait, Jean se tient entièrement séparé de cette société qu'il lui faut condamner. Ce dont il est vêtu, ce dont il se nourrit, le lieu où il se tient, allant dans le désert, lui font prendre une place de séparation. Moïse avait donné la loi. Élie avait accusé le peuple de s'en être détourné et l'avait appelé à s'y soumettre à nouveau. Jean, bien qu'ils viennent dans l'esprit et la puissance d'Élie, ne les exhorte pas à garder la loi, mais plutôt à confesser honnêtement qu'ils l'ont entièrement enfreinte. Cela les prépare pour la suite de son message concernant celui qui est infiniment plus grand, qui est sur le point de venir et les baptisera du Saint-Esprit. Le baptême dont il les baptisera sera beaucoup plus grand que celui de Jean, exactement comme sa personne même est bien au-dessus de lui. Jean. Celui qui peut ainsi répandre l'Esprit Saint ne peut être moins que Dieu lui-même. Le commencement de l'annonce de la bonne nouvelle dans l'œuvre de Jean étant ainsi décrit, nous sommes ensuite amenés au baptême de Jésus, résumé par les versets 9 à 11. Ici, comme dans tout cet évangile, une brièveté et une concision extrême caractérisent le récit. Jésus vient de Nazareth, cet endroit humble et méprisé de la Galilée, et se soumet au baptême de Jean non pas qu'il ait quoi que ce soit à confesser, mais parce qu'il veut s'identifier avec ces âmes qui, par la repentance, font un pas dans la bonne direction. Alors il convient, avant son entrée dans le ministère public, que soit manifestée l'approbation du ciel sur le parfait serviteur, de peur que ne soit mal interprétée l'humilité dont il fait preuve en se laissant baptiser. L'Esprit descend sur lui comme une colombe, et la voix du Père se fait entendre, rendant témoignage à sa personne et à sa perfection. Le serviteur du Seigneur est lui-même scellé de l'Esprit-Saint, la colombe étant l'emblème de la pureté et de la paix. Étant devenu homme, il faut qu'il reçoive l'Esprit lui-même. Bientôt, dans son élévation, il répandra cet Esprit comme baptême sur d'autres. C'est dans la puissance de cet Esprit qu'il s'avance pour servir. Il faut noter également que, pour la première fois, il y a une révélation claire de la divinité comme Père, Fils et Saint-Esprit. La première action de cet Esprit, en ce qui concerne le Seigneur, nous est présentée aux versets 12 et 13. S'avançant pour répondre à la volonté de Dieu, il faut qu'il soit mis à l'épreuve, et l'Esprit le pousse à cela. C'est ici que, pour la première fois, nous trouvons le mot « aussitôt » que nous rencontrons si souvent dans cet évangile. Pour être accompli comme il convient, Le service doit être caractérisé par une prompte obéissance. C'est pourquoi nous voyons notre Seigneur comme celui qui n'a jamais perdu un instant dans le sentier où il a servi. Il faut qu'il soit mis à l'épreuve avant d'entrer dans son ministère public, et cette épreuve a lieu tout de suite. Lorsque le premier homme est apparu, il a vite été mis à l'épreuve par le diable, et il est tombé. Le second homme est là maintenant, et lui aussi doit être également mis à l'épreuve par le diable. Seulement, au lieu d'être dans un beau jardin, il est dans le désert. C'est ce qu'avait fait de son jardin le premier homme. Il est avec des bêtes qui sont sauvages à cause du péché d'Adam. Il est mis à l'épreuve pendant 40 jours, un temps complet de mise à l'épreuve, et il en sort vainqueur, car à la fin, de saints anges le servent. Aucun détail quant aux différentes tentations n'est mentionné ici, simplement le fait que la tentation a eu lieu, dans quelles conditions, et ce qui en est résulté. Le serviteur du Seigneur est pleinement mis à l'épreuve, et sa perfection est rendue manifeste. Il est prêt à servir. Aussi, au verset 14, Jean quitte la scène. L'introduction à l'annonce de l'Évangile est finie, et sans autre explication, nous pénétrons tout de suite dans un bref récit du merveilleux service accompli par le Seigneur. Son message est décrit comme étant l'Évangile du royaume de Dieu, et un très court résumé de ce qu'il comporte se trouve au verset 15. Dans l'Ancien Testament, il est parlé du royaume de Dieu, en particulier dans Daniel. Au chapitre 9 de ce livre, une certaine période avait été fixée pour la venue du Messie et l'accomplissement de la prophétie. Le temps était accompli et, en lui, le royaume s'était approché. Il appelle les hommes à se repentir et à croire à l'Évangile. C'est en proclamant cela qu'il vient en Galilée. Pour le moment, il est seul dans ce service. Mais il ne resta pas seul longtemps. Ici et là, son message est reçu, et, des rangs de ceux qui croient, il commence à en appeler quelques-uns qui doivent être plus étroitement associés à lui dans son service pour devenir à leur tour pêcheurs d'hommes. Lui-même est le grand pêcheur d'hommes, comme cela est montré dans les deux circonstances rapportées au verset 16 à 20. Il sait qui il veut appeler à son service. Voyant les fils de Zébédée, il les appelle aussitôt. Et il est dit des fils de Jonas que lorsqu'il les appela, aussitôt ayant quitté leur filet, ils le suivirent. Comme grand serviteur de Dieu, Jésus a été prompt à adresser son appel. Comme serviteur placé sous ses ordres, ils ont été prompts pour obéir. Il vaut la peine de remarquer que ces quatre hommes qui ont été appelés sont diligents dans leur travail. Pierre et André sont occupés à pêcher. Jacques et Jean ne se prélassent pas pendant leur temps de repos, ils raccommodent les filets. Au verset 16, nous lisons « ils marchaient » au singulier, mais au verset 21, « ils entrent ». Les hommes qu'il a appelés sont maintenant avec lui, écoutant ce qu'il dit et voyant ses œuvres de puissance. Entrant dans Capernaum, il enseigne aussitôt le jour de sabbat et ce qu'il dit porte la marque de l'autorité. Les scribes ne faisaient que répéter les pensées et les opinions d'autres personnes, s'appuyant sur l'autorité des grands rabbins des siècles précédents. Aussi est-ce ce signe d'autorité qui étonne les gens. Elle est si évidente qu'ils la remarquent immédiatement. Il est vraiment ce prophète qui a les paroles de l'Éternel dans la bouche et dont Moïse avait parlé en Deutéronome 18, versets 18 et 19. Et non seulement il y a en lui autorité, mais aussi puissance, une vraie force active. Cela se manifeste à la même occasion dans la façon dont il s'occupe de l'homme possédé d'un esprit immonde. Sous la dépendance du démon, l'homme le reconnaît comme étant le saint de Dieu, tout en le voyant comme celui qui est venu pour détruire. Devant cette provocation, le Seigneur se révèle comme le libérateur et non pas le destructeur. C'est le diable qui est le destructeur, et donc le démon, qui est son serviteur, fait ce qu'il peut dans ce sens en déchirant le pauvre homme avant de sortir de lui. Il ne peut garder son emprise sur sa victime en présence de la puissance du Seigneur. De nouveau, les gens sont saisis d'étonnement. Ils voient l'autorité qui s'exprime dans ce qu'il fait comme il l'avait auparavant senti dans ce qu'il disait. D'où leur double interrogation. Qu'est-ce que ceci? Et qu'est-ce que cette nouvelle doctrine? Ces deux choses doivent toujours être maintenues ensemble dans le service de Dieu. Ce que l'on dit doit être étayé par ce que l'on fait. Lorsqu'il n'en est pas ainsi, ou que, pire encore, nos œuvres contredisent nos paroles, notre service est faible ou vain. Dans le cas de Jésus, les deux choses sont parfaites. Son enseignement est plein d'autorité, et, avec la même autorité, il exige l'obéissance des démons. De là vient que sa renommée se répand avec une rapidité qui s'accorde à la promptitude avec laquelle il sert Dieu, de façon admirable, en faveur de l'homme. Nous n'en avons pas encore fini avec les activités de cette admirable journée à Capernaum, car le verset 29 nous dit qu'ayant quitté la synagogue, ils entrèrent dans la maison de Simon et d'André. Ils font cela aussitôt, c'est toujours le même mot caractéristique, indiquant la promptitude. Pas de perte de temps pour notre bien-aimé maître, pas de perte de temps pour ceux qui le suivent maintenant, car il lui parle aussitôt, même mot, du besoin qui se trouve dans cette maison. Besoin humain, fruit du péché de l'homme, qui se présente à lui à tout moment. Il se manifeste aussi bien dans la maison de ceux qui sont devenus ses disciples qu'il s'est manifesté dans la synagogue, centre local de leur rite religieux. La puissance du démon était bien présente dans le cercle religieux, et la maladie dans le cercle familial. Et Jésus peut répondre largement à ces deux besoins. Le démon quitte l'homme complètement et aussitôt, la fièvre quitte la femme avec la même promptitude. Et il ne faut aucune période de convalescence avant qu'elle reprenne ses tâches ménagères habituelles. Rien d'étonnant si, rapidement, la ville tout entière est rassemblée à la porte. Le tableau présenté au verset 32 à 34 est très beau. Le soir étant venu, comme le soleil se couchait, le travail de la journée étant terminé, des foules se rassemblent apportant un grand nombre de personnes dans le besoin, et il dispense la grâce de sa puissance en guérison. Il ne veut pas qu'aucun témoignage lui soit rendu de la part des puissances des ténèbres. La grâce et la puissance qu'il manifeste sont un témoignage suffisant pour dire qui est celui qui sert parmi les hommes. Dans son évangile, Jean nous dit qu'il y a beaucoup d'autres choses que Jésus a faites et qui n'ont pas été rapportées. Quelques-unes sont indiquées ici sans que des détails soient donnés. Le récit tel qu'il nous est donné par Marc avance rapidement. Tard dans la soirée, l'œuvre de grâce continue encore, et puis, longtemps avant le jour, Jésus se lève et cherche la solitude pour la prière. Nous venons de remarquer l'autorité et la puissance du parfait serviteur de Dieu. Ici, nous voyons sa dépendance de Dieu, sans laquelle il ne peut y avoir de vrai service. Il faut que le serviteur reste étroitement attaché au maître, et quoique celui qui sert soit fils, il ne se dispense pas de cette dépendance. Au contraire, il en est l'expression la plus élevée dans son obéissance parfaite. En Hébreux 5, verset 8, nous lisons qu'il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et ce mot, sans aucun doute, s'applique à tout son chemin sur la terre et pas seulement aux dernières scènes de souffrance d'un ordre plus physique. Comme cela parle à tous ceux qui servent, si modeste que soit le service. Sa journée était si remplie d'activités qu'il consacrait une grande partie de la nuit à la prière. Et il était le Fils de Dieu. Notre impuissance est causée principalement par notre insuffisance dans le domaine de la prière individuelle dans le secret. Les quatre versets suivants, 36 à 39, nous montrent la consécration du serviteur de Dieu. Simon et d'autres semblent avoir considéré sa retraite à l'écart comme un inexplicable excès de modestie ou peut-être comme une perte d'un temps qui était précieux. Tous le cherchaient et il semblait laisser échapper ce flot de popularité grandissante. Mais la popularité n'était en aucune façon ce qu'il poursuivait. Il s'était avancé comme serviteur pour prêcher le message divin et ainsi, sans tenir compte des sentiments de la foule, il continue son service dans les villes de la Galilée. Il se consacre à la mission qui lui a été confiée. Et maintenant, dans les derniers versets de ce premier chapitre, nous avons un délicieux tableau de la compassion de ce parfait serviteur de Dieu. Un lépreux vient à lui, et il ne peut y avoir, quant à l'aspect physique, de spécimen plus repoussant de l'humanité. Ce pauvre homme ne manque pas de foi, mais elle est imparfaite. Il a foi en la puissance de Jésus, mais des doutes quant à sa grâce. Ce qui nous aurait animés, c'est le dégoût, accompagné d'indignation devant la méconnaissance de nos sentiments bienveillants. Le Seigneur est ému de compassion. Il est mu par elle, remarquez le bien. Non seulement il regarde cette personne misérable avec un amour plein de compassion, mais il agit. La source profonde de l'amour divin qui est en lui jaillit et déborde. De sa main, Jésus le touche. De ses lèvres, il parle. Et l'homme est guéri. Il n'était pas vraiment nécessaire qu'il le touche, car le Seigneur a guéri de loin maint cas désespéré. Aucun juif n'aurait songé à le toucher et à contracter ainsi la souillure. Mais c'est ce qu'a fait le Seigneur. Il était absolument impossible qu'il soit souillé, et, s'il a touché le malade, c'est pour exprimer sa compassion autant que sa puissance. Cela confirmait sa parole « Je veux » et enlevait pour toujours de l'esprit de cet homme tout doute quant à la volonté du Seigneur. Nous voyons encore une fois comment notre Seigneur ne recherche pas l'enthousiasme des foules ni la notoriété. Les instructions qu'il donne à l'homme sont destinées à permettre que le témoignage de sa guérison puisse se faire selon ce que Moïse avait prescrit. Mais lui, dans sa grande joie, fait exactement ce qu'on lui avait dit de ne pas faire, de sorte que, pendant quelques jours, le Seigneur doit éviter les villes et se tenir dans des lieux déserts. Peu de choses suscitent davantage l'intérêt et la passion de l'homme qu'une guérison miraculeuse. Mais le Seigneur recherchait des résultats spirituels. Il y a actuellement des mouvements religieux pour la guérison qui sont à l'origine de beaucoup d'agitation, en dépit du fait que leur prétendue guérison ressemble bien peu à celle qu'opérait notre Seigneur. Les acteurs, dans ces mouvements, ne fuient pas les projecteurs de la publicité, mais y trouvent plutôt leur plaisir.